Bienvenue sur Micro Standard.
Tiens, bon, la barre.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Tiens, bon, la barre.
Zona.
Rancard.
Bazar.
Bonjour et bienvenue sur Micro Standard. C'est Mick qui vous accompagne pour notre 17e émission Intolérance zéro contre les discriminations qui empoisonnent notre vie. Vous êtes Cotorep, pas d'appart. Vous vous appelez Fatima ou Ahmed, pas de boulot. Vous êtes homo, pas de cadeau. Et si vous êtes les trois à la fois, raison de plus pour rester à notre écoute pendant 50 minutes. Les discriminations, sujet large et sensible, a fait débat dans notre petite équipe journalistique. En effet, nous sommes tous touchés à échelles diverses. Nos discussions ont souvent été animées et nous ont mis à fleur de peau. Pour commencer cette émission, nous vous proposons d'écouter Valérie Girard, assistante sociale à l'hôpital de Morlaix. Nous l'avons interrogée sur les discriminations qu'elle observe et particulièrement celles touchant au travail et au logement pour les personnes en situation de handicap psychique. Ensuite, nous sommes allés voir si le macho est une espèce en voie de disparition sous les pavés morlaisiens. À notre micro, en tout cas, pas de problème pour voir une femme au volant d'un 38 tonnes. Pour sa rubrique, Maria a déniché quelques livres illustrant notre sujet. Puis, dans notre chronique sportive, coup d'œil dans le rétro sur le triste épisode où Jesse Owens a dû faire face au nazisme. Sujet encore plus grave, Magali nous rappelle aux horreurs de la déportation. Thierry nous fera part de ses dernières créations sur le sujet. Enfin, Magali nous ouvrira l'esprit par une belle exposition sur l'artiste Miro qui s'est tenue à Landerneau. Commençons par une page poétique avec Magali.
Vous, petits anges, du haut de tes 8 ans, d'autiste flamboyant, tous les matins, à l'école tu te rends, ton AVS à tes côtés. AVS, gros mot, plein de tendresse, auxiliaire de vie scolaire pour éviter que tu ne cèdes à tes colères. Toi, petit gars, tu n'as pas le même rythme que les autres. Tu n'as pas la même évolution et ce n'est pas ta faute. Pour toi, tous les jours, l'école, ça n'a pas été drôle. Et le dernier jour de l'année, ton art, tu nous as dévoilé. Une voix d'ange. Et pour une fois, un rythme qui vous démange. Et ce n'est pas nous que ça dérange. Du haut de tes 8 ans, d'artiste flamboyant.
Je te veux si tu veux de moi.
Bonjour Valérie Girard, vous êtes assistante sociale à l'hôpital de Morlaix. Merci d'être venue à notre rencontre afin de répondre à nos questions. Tout d'abord, beaucoup de personnes ont du mal à trouver un logement ou un travail du fait de leur handicap psychique. Où en est-on actuellement ?
Alors, disons que moi, dans ce que je peux en voir dans mon travail, les questions, effectivement, logement, travail, c'est des choses qui reviennent sans cesse. Alors, sur la question d'un problème plus particulier pour des personnes qui ont un problème psychique, Je ne sais pas si c'est lié uniquement à cette question-là. La remarque que je me fais, c'est que régulièrement, les personnes qui ont des problèmes psychiques, il y a aussi d'autres problèmes d'ordre social qui sont liés. Et ce n'est pas forcément une discrimination, à mon avis, en termes de handicap ou de problèmes de santé, mais c'est aussi une discrimination qui est due à l'inégalité sociale aussi, quoi. C'est-à-dire que souvent, les personnes ont des ressources modestes, sont isolées. Il y a plein d'autres critères qui font que le travail, le logement, c'est compliqué, quoi. Alors après, dans le travail qu'on peut être amené à faire en termes de services sociaux, c'est d'essayer certainement de résoudre ou en tout cas de réduire les inégalités en faisant en sorte d'amener des dispositifs, de faire appel, de contribuer à la politique sociale pour amener des réponses, quoi, en termes de logement et de travail, mais ça reste quelque chose d'assez compliqué, mais qui pour moi n'est pas forcément lié qu'uniquement au problème psychique. Ça vient peut-être rajouter, le problème de santé vient rajouter encore
un problème global aussi.
Ouais, un problème supplémentaire. Moi, j'ai pas vu de discrimination, on va dire, directe. J'ai rarement vu ça. C'est quelquefois indirect, c'est-à-dire que les choses ne sont pas dites. Ça peut peut-être être sous-jacent. Enfin, je pense à des recherches de logement, des propriétaires qui vont être un peu frileux, peut-être, à louer, par exemple, quelque chose à quelqu'un qui a des soucis de santé. Mais d'abord, ça va jamais être dit. Peut-être parce que tout le monde sait que c'est aussi... La discrimination, c'est répréhensible. Enfin, on ne peut pas discriminer. Enfin, c'est dans le code pénal.
Par quel biais c'est répréhensible, hein, parce que quand on essaie de contacter certains organismes, on ne réussit jamais à les contacter, on n'a jamais de réponse.
Là, je faisais référence à la discrimination qui peut être... c'est inscrit dans le code pénal. On peut effectivement être poursuivi si on fait une discrimination ouverte. Que ça soit une discrimination pour la race, pour l'état de santé, pour il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte, et voilà, donc pour dire que voilà, c'est quelque chose qui est répréhensible, et la discrimination, c'est illégal, quoi.
Donc, et les gens le savent, ils ne vont pas demander à l'assistance sociale, elle vient de l'hôpital, cette personne, ou enfin, ce sera jamais direct comme ça.
Ça peut être on voit des propriétaires qui essaient d'en savoir plus. Alors nous, notre travail, c'est peut-être en termes de prévention, c'est-à-dire d'alerter aussi les personnes qui sont suivies pour leur dire c'est pas non plus la peine d'aller exposer, d'aller en dire trop sur ça fait partie du privé, ça fait partie de choses qu'on va pas communiquer forcément à l'extérieur, parce qu'effectivement des bailleurs peuvent s'en saisir pour dire non, certainement, mais ça va jamais être dit comme ça.
À tout de suite, Valérie. On se retrouve juste après une petite pause musicale.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Oh, micro, qu'est-ce qu'on y croit un sort. Y'a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage. Chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part.
À quel genre de situation avez-vous été confronté?
Peut-être que je peux revenir sur les situations sur lesquelles j'interviens assez régulièrement, c'est en termes notamment d'emploi, à savoir là quand on parle de discrimination, là on n'aborde que l'aspect discrimination négative, c'est-à-dire les discriminations qui, voilà, on fait une distinction entre des personnes sur un critère qui n'est pas légitime, et puis ça ne va pas être en sa faveur, c'est une discrimination vraiment négative. Et en service social, on est plutôt, quand on adopte les politiques sociales, on est pour adopter une discrimination du coup qui va être positive, dans le sens où voilà, on va mettre en œuvre des politiques particulières pour des personnes qui vont être avec un statut particulier. Je peux prendre l'exemple des jeunes qui vont avoir des dispositifs qui vont leur être réservés en termes d'emploi. Par exemple, pour les contrats aidés qui sont réservés, par exemple, à un certain public, par exemple, des gens qui sont demandeurs d'emploi depuis très longtemps. Et ça peut être des dispositifs, par exemple, qui sont réservés pour des personnes, justement, reconnues avec un handicap. Et dans ce cadre-là, moi, j'interviens assez régulièrement, c'est-à-dire pour faire en sorte que les personnes aient une reconnaissance travailleur handicapé. Donc là, on est... on peut dire dans une discrimination positive, c'est-à-dire que ces personnes-là vont avoir accès à des services, à des suivis qui sont spécifiques, qui sont réservés pour eux, avec l'idée que ces aides-là vont les aider à peut-être rattraper, on va dire, le problème qu'ils ont à la base pour peut-être s'intégrer facilement. Donc ça va être un petit coup de pouce, une aide en fait pour s'insérer. C'est un contrat qui est spécifique. C'était pour expliquer qu'effectivement, à mon sens, voilà, y a une discrimination qui peut être aussi, positive en faisant accéder des personnes à des contrats que d'autres ne peuvent pas du coup avoir, quoi. C'est pareil aux personnes qui vont avoir une reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées. Elles vont donc avoir une reconnaissance spécifique. Elles vont avoir un suivi particulier, non plus forcément par le Pôle emploi, mais par d'autres organismes qui vont prendre en compte justement leurs problèmes de santé, leurs problèmes de handicap.
Vous parlez des associations qui mettent en relation les chômeurs de maladies psychiques en relation avec des entreprises.
Moi, je connais pas mal de personnes qui sont suivies par ce type de service. Et ce sont des personnes qui, à mon sens, accèdent à des choses. Si elles bénéficiaient d'un suivi lambda par le Pôle emploi, qui, à mon avis, n'avancerait pas et arrive à avancer parce que dans ce cadre de suivi, justement, on prend en compte une dimension qui n'est pas prise ailleurs. On prend en compte une dimension de la santé, du handicap, et ces personnes-là arrivent à avancer par ce biais-là. Alors après, c'est peut-être pas approprié pour tout le monde, il y a peut-être des gens qui ne s'y retrouvent pas, je ne veux pas généraliser, mais il y a quand même toute une frange de personnes qui s'y retrouvent et qui arrivent à accéder à des choses. Alors il n'y a pas seulement la recherche d'emploi, il y a aussi des dispositifs pour rentrer dans des stages adaptés, enfin voilà, il y a des choses qui ciblent des besoins particuliers.
Ça cible peut-être une certaine population, mais à côté de ça, il y a beaucoup de laissés par compte. C'est ça que je suis en train de dire, qu'il faut peut-être arrêter de cibler juste une population et essayer de comprendre qu'il y a d'autres gens qui sont dans des situations pénibles également, et eux, on les laisse tomber.
À l'endroit où ils naissent, que les...
posais la question si c'était plus facile d'être suivi quand on vient d'un milieu rural ou enfin quand on habite à la campagne, ou est-ce que c'est plus facile d'être aidé quand on est en ville.
À la campagne, c'est peut-être plus du coup le réseau, la connaissance, le fait d'être par exemple implanté sur une petite commune, d'être bien connu des membres, des élus locaux, souvent ça facilite aussi les choses, quoi. Quelqu'un qui par exemple est en difficulté de logement, qui est bien connu sur la commune, les élus se mobilisent peut-être plus facilement, plus spontanément, enfin ça passe pas nécessairement par des dispositifs ou des choses, alors que sur une commune déjà de la taille de Morlaix, par exemple une recherche de logement en urgence, il va falloir s'inscrire dans un dispositif, prendre rendez-vous, il va falloir suivre un petit peu des procédures peut-être un peu plus lourdes, quoi. Mais après je pense que sur Morlaix on n'est pas non plus dans une ville où il y a quand même de l'offre de logement, on n'est pas sur une agglomération où l'offre est saturée, où on est vraiment coincé. Je pense que ça c'est un poids supplémentaire. Enfin, je pense qu'il y a aussi une concurrence lourde, enfin, en termes de logement ou d'emploi, quand il y a une offre qui est très peu importante, ça renforce aussi la discrimination, je pense, des personnes qui sont un petit peu exclues, justement. Donc là, l'offre, elle est quand même assez importante sur Morlaix. Enfin, les gens, même si c'est un peu difficile, finissent par trouver à se reloger. Enfin, il y a quand même des solutions possibles, quoi.
Nous remercions Valérie Girard d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes toujours à notre écoute sur Micro Standard pour notre émission Intolérance Zéro sur le thème des discriminations. Voici maintenant le groupe Simple Minds qui nous interprète Mandela Day, une chanson sur la libération de Nelson Mandela.
To take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Years ago this very day, held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through your life. Oh, Mandela's free. The tears are flowing, wipe them from your face. Feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away, and now the world came dancing, Nelson Mandela's free. Mandela's free.
Sunsets Mandela on his way. It's been 25 years around this very day. From the one outside to the ones inside we say.
Alors c'est quoi pour vous être macho?
Être macho, c'est de pas respecter la femme. La prendre pour un objet, point.
D'accord.
Voilà, la prendre pour un objet.
Bonne question.
Pas faire la vaisselle, pas s'occuper des enfants avec nous. Bah, tout ce qu'on est en train de penser là, de parler.
D'accord. On va se croire supérieur à son égal.
C'est très vilain déjà.
Hein, ouais, c'est
ne,
vrai.
Pas, ne pas accepter ouais. Le sexe opposé.
Ouais.
Hein, pour moi, il n'y a pas lieu.
Il n'y
a pas lieu parce que nous sommes tous égaux.
Okay.
C'est être entre Néandertal, Tyrannosaurus Rex et puis et avoir trop vu les films d'Aldo Macchione.
Oh, c'est manquer de respect aux femmes.
Ouais, pourquoi?
Pourquoi? Après, c'est un peu profond à expliquer peut-être, ou même un peu long. Mais disons, dans l'ensemble général, c'est un peu ça, c'est le manque de respect vis-à-vis des femmes. Quoi.
Macho, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, c'est dur à expliquer.
Une supériorité peut-être ou...
Bah, ça dépend avec qui en fait. Ça dépend qui est en face quoi.
C'est quoi le féminin de macho?
Le féminin macho, c'est la femme qui en a rien à foutre de tout, qui agit comme les hommes.
Pétasse, pour moi, c'est encore autre chose quoi. C'est aussi une femme qui a la classe et tout, qui sait remettre les petits machos justement à leur place. Mais enfin, je sais pas si c'est le mot vraiment correct, le bon mot pour répondre à ça. Mais ouais, ça irait bien aussi.
Ok, merci.
Certaines cougars.
Le féminin macho, c'est...
Féministe.
C'est être féministe, ouais. Mais j'en connais pas beaucoup des féministes.
Ça existe ou pas, non?
Ça existe pas.
Je sais pas.
Ah, celle-là, je la connais pas. Le féminin de... Ah, je sais pas.
Ok.
Et la réponse, c'est...
Je sais pas. Moi non plus, je sais
non,
pas.
Non, d'accord.
Et est-ce qu'une femme au volant d'un 38 tonnes, ça vous choque?
Non, pas du tout.
Pas du tout? Pourquoi?
Parce qu'on a voulu l'égalité, voilà.
Elles sont aussi capables de faire, de conduire aussi bien un truck qu'un homme, je pense. Après, peut-être, c'est plus physique, mais si elle fait du sport, à mon avis, elle s'en tire bien.
Pas du tout,
non,
ça me choque pas du tout.
Pourquoi?
Parce que je trouve ça naturel.
Pas du tout, j'en ai connu. Non, non, au contraire, c'est très bien, les femmes conduisent très bien.
Non.
Oh, parce que moi, en tant qu'ancien chauffeur de car, j'ai beaucoup de collègues aussi femmes, donc... On sait que les femmes sont de plus en plus embauchées comme chauffeurs de car, par exemple, ou poids lourds, parce qu'elles respectent beaucoup mieux le matériel, elles sont plus douces, etc. Donc voilà quoi, on a un peu la connaissance de ce genre de métier, c'est pourquoi.
Hein? Ah, pas du tout. pas du tout.
Non, j'ai l'habitude de voir des femmes travailler.
À quand remonte votre dernière crise de machisme, si vous en avez déjà une?
Alors, j'étais en train de dire à mon ami que j'étais la femme parfaite, donc je suis pas machisme.
Ok. D'accord.
Voilà, ça date, hein, tu me connais. Hein. Moi, je suis sociable à 100% avec qui que ce soit, donc
d'accord.
Je pète pas plus haut que mes fesses.
Ok, super.
Attendez, je réfléchis. Machisme. Non, j'étais enseignant et j'ai toujours trouvé que mes élèves filles étaient géniales. Et parce que moi j'ai été éduqué dans un système où les garçons étaient séparés des filles. Et quand j'ai moi-même été enseignant, j'étais prof d'art plastique à Paris, enfin j'étais prof de la ville de Paris. Et j'ai découvert les filles et non, elles sont très douées. Et j'ai des filles d'ailleurs qui sont très douées, enfin mes propres filles. Non, je ne suis pas, désolé de vous décevoir.
Moi je ne suis pas machiste, j'en ai jamais eu de crise.
Bien, on vous remercie alors.
Ce n'est pas de mes principes en gros. Bon, vu l'éducation que j'ai eue, non.
Je ne m'en rappelle pas, je crois que j'en ai jamais eu. Et je rajouterais même des choses. Moi je suis du style, voilà, j'ai une fille derrière moi, il y a une porte, je l'ouvre. La galanterie,
d'accord.
Vous ne parlez pas de ça, de la galanterie?
Oh, ça doit être assez vieux. Ouais. Dans une autre vie, peut-être. Madame est là pour témoigner.
Malin le bouquin.
Bouquin le malin.
La rubrique littéraire de Maria.
Au programme, 3 livres sur la discrimination à se procurer rapidement. Pour commencer, un petit détour en Afrique avec le très poignant roman Les Girofliers de Zanzibar de l'écrivain Adam Shafi Adam. Publié en 1978, à la veille de la Révolution, sur l'étendue du domaine féodal de Fouad, travaillent des dizaines d'esclaves, parmi eux la vieille Kijakazi. Ce qui m'a touchée et émue dans cette histoire, c'est le comportement de cette femme dévouée à son maître, alors que ce dernier ne cessera jamais de l'humilier, de la violenter. Pour elle, l'état de soumission est dans l'ordre naturel des choses. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en Tanzanie, une politique de swahilisation est menée afin de regrouper tous ces peuples autour de cette langue et ainsi de rejeter un passé de soumission féodale et coloniale. Petit détour à présent sur l'île Maurice natale de Natacha Apana Mourican, qui signe avec Blue Bay Palace un roman captivant paru en 2004. Au cœur de son intrigue, l'impossible histoire d'amour entre Maya, la petite Malbar, qui est un groupe ethnique, qui est pauvre, et Dev, donc le riche descendant de Brahman, qu'on peut apparenter une famille d'hommes de lettres. Trop belle histoire d'amour sans doute, car les parents du jeune homme ont prévu de marier ce dernier à une riche héritière afin de réunir deux grandes fortunes sucrières. Pour finir, une petite escale dans une bourgade pas très loin de Marseille où se déroule le magnifique roman « L'Arabe » d'Antoine Audouard. Alors l'histoire. Un arabe débarque dans une petite cité composée majoritairement de blancs. La fille de l'une des voisines va être assassinée. Le meurtre ne peut trouver son origine que dans la présence de l'intrus indésirable parce que différent. Un complot va sourdir alors qui visera à se débarrasser à tout prix de cet arabe qui ne peut que constituer un danger malgré toutes les évidences contraires. Ce roman est paru en 2009 et je dois dire que c'est mon coup de cœur. L'histoire est poignante, bien sûr, mais l'auteur a su écrire aussi de magnifiques pages sur les on-dit, sur tous les préjugés. Les mots, les tournures sont judicieusement choisis. Du début à la fin, la tension est palpable. Voilà, je vous souhaite à tous d'agréables moments de lecture et à très vite sur nos ondes. Je tiens à remercier Chantal de la médiathèque de Morlaix, Les Ailes du Temps, pour m'avoir aidé dans cette sélection.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily.
dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Camembert orange.
Le monde du sport vit par Mick.
Berlin, 1er août 1936. C'est l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors que l'Allemagne traverse une situation économique et politique très difficile, Hitler est au pouvoir depuis 3 ans. Il est chancelier et puis président de l'Allemagne. Il vient d'être plébiscité aux élections et il prône la suprématie de la race aryenne, des blonds aux yeux bleus. Les Jeux Olympiques doivent servir cette idéologie. L'Allemagne nazie prépare son entrée en guerre via son réarmement. Et en fait, c'est un athlète noir américain qui sera le héros de ces jeux. Il s'appelle Jesse Owens. Il est le contraire de l'idéal racial d'Hitler. Il va rafler 4 médailles d'or lors de cette Olympiade, ce qui en fait le recordman pour l'époque. Il va glaner les médailles d'or sur 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et saut en longueur. Déjà en 1935, il battra 6 records du monde. Alors lors des JO de 36, il survole réellement toutes les compétitions auxquelles il participe. Il réalise même un record du monde sur 200 mètres et sur 4 fois 100 mètres avec ses coéquipiers américains. Il est à noter que le sélectionneur américain a intégré Jesse Owens pour écarter 2 athlètes juifs dans le contexte racial. À la fin des compétitions, Hitler quitte sa loge pour échapper à la cérémonie de remise des médailles. Il dira plus tard, « Les gens dont les ancêtres viennent de la jungle sont primitifs. Leur physique est plus fort que celui des blancs civilisés et par conséquent, ils devront être exclus des prochains Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques constitueront un énorme camouflet pour Hitler qui attendait le triomphe de la race aryenne. Petit-fils d'esclave, Jesse Owens ne sera décoré dans son pays qu'en 1976. 40 ans après ses exploits de Berlin, soit aussi une dizaine d'années seulement après une autre discrimination, celle de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il recevra par la suite plusieurs distinctions de la part de plusieurs organisations jusqu'à sa mort en 1980 à l'âge de 66 ans. En 1984, une rue de Berlin est baptisée en son honneur. Quel chemin parcouru!
Ils étaient 20 et 100. Ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
La déportation ou le déplacement de populations gênantes. Voyage sans retour pour bon nombre d'entre eux. Les déportés n'étaient pas que des Juifs. Il y avait aussi des Espagnols, des Gitans, des Noirs, des communistes, dits Périne Rouge, des homosexuels ou des malades mentaux et handicapés physiques. Ce voyage irréversible a conduit ces êtres humains à vivre, survivre dans des conditions effroyables. Ce voyage en train les amenait tout droit au camp d'extermination, aux chambres à gaz, comme à Dachau ou Buchenwald. À l'entrée de ces camps étaient affichées des expressions telles que « Jedem hat zu seine », « chacun son dû » ou « Arbeit macht frei », c'est-à-dire « le travail rend libre ». J'ai eu la chance et l'horreur de visiter Buchenwald, cela dans les années 90, après la chute du mur de Berlin. J'y ai découvert des reliques, seules traces attestant de l'enfer de la vie de ces hommes, femmes et enfants. La pire sensation que j'ai éprouvée a été de respirer l'odeur persistante de ces chambres à gaz, et surtout celle des fours crématoires, odeur insupportable par toute l'atrocité et la cruauté qui s'en dégage. La déportation a été une conséquence de la discrimination de différents genres, social, politique, religieuse, médicale, raciale, etc. Ce qui ne devrait jamais devoir se reproduire dans une démocratie ou dans la communauté européenne. Il est évident que les ghettos et le manque de respect de certaines populations engendrent la discrimination. N'oublions jamais la souffrance de nos grands-parents lors de leur déportation, avec le système perfide mis en place et la délation.
On a retrouvé le poète, Thierry, le poète qui se la pète pas.
Le handicap. Béquille, fauteuil roulant. Sanatorium commentant, tétraplégique, handicapé, on devrait tous y penser. Mais dès qu'il y a une différence, ce n'est pas la même danse. Nos regards se modifient, mais avant de tomber dans l'oubli, il faut savoir profiter de la vie, car elle est courte et vaut la peine. De nos regards chasser la haine, faire tout ce qu'il est possible, car le handicap c'est terrible, c'est malade à la vie pénible, mérite notre reconnaissance, car il est vrai qu'en France, c'est les valides qui mènent la danse.
Une autre composition de Thierry, lue par Mike.
Toi qui as beaucoup souffert, toi qui as parfois les nerfs, toi qui connais la vie, toi qui penses que ça suffit, pourtant il faut y croire aussi, la discrimination devrait être abolie. Au moins pour toutes ces filles, au moins pour tous ces garçons, qui n'ont jamais raison, car de toute façon, les usurpés ont tout le temps tort. Il faudrait qu'il soit plus fort. Tous ces gens qui en souffrent sont balayés comme un souffle. L'intolérance, le racisme, la guerre ne devraient exister sur cette terre.
Yeah. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color.
Didn't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
L'arlequin artificier et Pablo Neruda au cœur des sensations. Mort le jour où je naissais, Pablo Neruda, grand poète chilien, a lui aussi lutté contre le constructivisme, qui est un courant artistique qui privilégie la construction plus ou moins géométrique des formes. Ce dernier a écrit de merveilleux poèmes dits hermétiques. Ces poèmes sont pour bon nombre basés sur l'émerveillement, sur les premières sensations, sur les ressentis, sur les couleurs, sur les sons, comme les vagues, sur le regard ou sur le toucher. Cet homme se ressourçait sur les plages, écoutant le ressac des vagues pour trouver son inspiration. Et loin de ces plages, il écoutait leurs sons sur des bandes audio. Ce qui le rapproche de Juan Miró, grand artiste catalan du XXe siècle, c'est une vision de la vie, de l'aventure humaine, comme Miró se prêtait lui-même à le dire. Cet été, une exposition lui a été consacrée à Landerneau, sous le titre Juan Miró, l'arlequin artificier. Pourquoi ce titre? Je vais tenter de vous donner quelques pistes. Arlequin, en raison des couleurs et des personnages qu'il utilise dans ses peintures, en raison d'une vision de la vie où l'espoir était toujours présent. Artificier, car ses toiles sont de véritables feux d'artifice et qu'elles émerveillent toujours autant les enfants ainsi que les êtres sensibles qui trouvent de l'émotion dans ses œuvres. Mais pas seulement dans sa peinture, car il a aussi travaillé le bronze et a donc expérimenté l'art du feu. Il s'est adonné à la peinture, la sculpture, la céramique, etc. Cet artiste était un dévoreur de vie, et il expérimentait tout ce qui attisait sa curiosité. Ce n'est pas uniquement un peintre ou un sculpteur, il était également un penseur, philosophe et poète. Il refusait d'être terre à terre, et voulait transmettre et partager une vision du monde, de la liberté, chère à de nombreux intellectuels et artistes contemporains du XXe siècle, avec des artistes qu'il a rencontrés lors de son aventure humaine. Son art est une remise en question constante des canons académiques. Il voulait voir au-delà des représentations réalistes et créer un monde plein d'inconnus, de surprises. Comme Pablo Neruda, sa pensée se développe autour de la découverte, des relations avec autrui, ainsi que des relations avec des matières qui pouvaient être de nature différente. Miró se servait de ses sensations inconscientes, cela dans l'expérimentation et dans la recherche de sa pensée, afin d'expliciter cette dernière. Ce grand artiste a inspiré toutes les générations. Personne ne reste sans réaction devant ses œuvres. Nous avons l'exemple de l'émulation de Miró avec les Shadocks, inspiré des représentations dites pataphysiques des arlequins, voir au-delà de la réalité, réfléchir, appréhender le monde avec une vision personnelle et poétique, refuser le diktat d'une vie bien réglée et sans surprise, aller au-devant d'autres penseurs, d'autres créateurs. Cet homme se mêlait volontiers aux artisans pour leur confier la réalisation de certaines œuvres qu'il avait imaginées. Il aimait travailler à plusieurs mains et à se confronter à la vie, relever des défis. Les maîtres mots de son art pourraient être curiosité, liberté, abstraction, anarchisme, émerveillement et vision. Tout comme Neruda a écrit Le Voyageur Immobile, quand vous vous trouvez en face d'une de ses œuvres, vous entreprenez un voyage immobile, mais vos pensées vous transportent dans un univers à part, émergeant de sa vision du monde et de l'espoir qu'il portait en l'humanité.
Bienvenue
sur Microstandard.
Tiens, la barre.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Tiens, la barre. Zona.
Merci à tous de nous avoir suivis. Une info pratique. Sachez que vous pouvez saisir un représentant de la HALD, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, dans le Finistère. Pour notre part, nous avons éprouvé des difficultés à le joindre. Kenavo, et à très bientôt sur nos ondes pour un nouveau thème. Vous pouvez écouter nos émissions depuis nos débuts sur le site www.stand-arts.org.